Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La paix. On dit souvent que l'on aimerait avoir la paix, mais qu'entend-on vraiment par là? Est-on réellement prêt à la rechercher? La désire-t-on vraiment et de quelle paix parle-t-on? Cherche-t-on à ne pas être dérangé, à pouvoir vivre notre vie en toute liberté? Ou veut-on trouver au fond de soi comme un grand calme, une présence même pour aimer alors beaucoup et apporter à son tour cette précieuse paix? Voilà donc cette émission Vivante Église ce matin sur apprendre à accueillir Dieu, Dieu comme un don de la paix, enfin comme un don de la paix, oui tout à fait. Je reçois ce matin le père Jacques Philippe, vous êtes en duplex depuis les studios de Radio Notre-Dame, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes membre de la communauté des Béatitudes, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages dont un best-seller Cherche la paix et poursuit-la, paru en 1991 aux éditions des Béatitudes, et puis vient d'être édité un livre qui est un peu une compilation, si j'ai bien compris, d'un certain nombre de vos retraites ou interventions qui s'appelle « Si tu savais le don de Dieu, apprendre à recevoir ». Alors on va pas parler de tout votre livre, mais on va essayer de mettre nos auditeurs en bouche. Et je voudrais commencer avec vous, avec un chapitre où vous parlez justement de l'urgence de la paix. Est-ce que vous pouvez nous dire, le titre de ce chapitre est « La paix intérieure, une urgence spirituelle ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est une urgence spirituelle pour commencer ?
Je crois qu'il y a une invitation aujourd'hui qui nous est faite par l'Esprit-Saint d'accueillir dans notre cœur la paix de Dieu. Justement parce que nous sommes dans un monde qui est parfois troublé, parfois difficile. Je crois que c'est important que chacun de nous, même si le contexte extérieur est complexe, que chacun de nous puisse trouver en lui-même, dans son cœur, un certain espace de paix, un espace de paix, de confiance, de liberté. Ça me paraît très important. Je crois que ça fait partie des dons que Dieu veut nous faire. Mais je pense que c'est important pour nous. Alors pas simplement pour une question d'être tranquille, de sérénité simplement psychologique, mais nous avons besoin de porter en nous un espace de paix parce que c'est ça qui nous permet aussi de réagir de manière positive aux événements. Moi je dirais que plus le monde extérieur est difficile et troublé, plus il est urgent pour nous de trouver dans notre propre cœur cet espace de paix où nous pouvons être à l'écoute de Dieu, nous pouvons nous laisser conduire par le Saint-Esprit, nous pouvons mûrir nos décisions, nos choix de manière à poser des choix, des actes qui ne soient pas simplement le fruit de la pression, du stress ou de l'inquiétude, mais qui soient vraiment des décisions qui permettent de grandir, de répandre autour de nous confiance, amour, espérance. Alors, je pense que c'est un petit peu ça l'enjeu fondamental.
Voilà, c'est un peu aussi votre leitmotiv, puisque je citais votre combat, j'ai l'impression, vu de loin, puisque je citais cet ouvrage là que vous avez publié en 1991, Cherche la paix et poursuis-la. Est-ce que vous avez l'impression, vous dites que l'Esprit Saint nous le demande de manière particulière, mais vous avez l'impression que votre message est entendu, que en quoi c'est un combat d'une certaine manière, parce que tout le monde a envie d'être en paix en fait.
Je crois que c'est un message qui rejoint tout le monde, parce que le désir de paix, ça fait partie de ce qui nous habite. Alors la question après ça, c'est quels sont les moyens qui nous permettent de trouver la paix véritable, et puis aussi donc que notre recherche de la paix ne soit pas simplement une recherche un peu égocentrique, de tranquillité personnelle, mais qu'au contraire, cette paix soit pour nous un dynamisme qui nous permet d'aimer davantage, une liberté qui nous permet de nous donner, de soutenir les personnes qui nous entourent. Donc je crois que c'est un thème auquel tout le monde est sensible, évidemment. Après ça, la question, c'est quels moyens prenons-nous, effectivement, pour accueillir cette paix?
Alors, excusez-moi, allez-y.
Oui, ce que je crois profondément, justement, c'est qu'aujourd'hui, si nous voulons trouver cette paix, c'est vraiment principalement dans la relation avec le Seigneur. La paix est un don de Dieu. Dieu est le Dieu de la paix, comme dit souvent saint Paul, et je pense que nous ne pouvons trouver une paix véritable que dans la mesure où nous sommes ouverts à la présence de Dieu, en contact avec lui. Et je dirais que plus qu'un effort humain, cette paix dont je parle, c'est plus un don de Dieu à accueillir en fait.
Alors justement, dans ce chapitre donc sur la paix intérieure, une urgence spirituelle, vous dites que cette paix intérieure est d'abord une promesse divine. Donc quelque part, en fait, il faut être persuadé qu'en cherchant cette paix, on va trouver Dieu d'une certaine manière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette promesse divine?
Je dirais que ça, les deux sont vrais. Je dirais qu'en nous efforçant d'être paisibles, eh bien, nous trouvons plus facilement Dieu que quand on est dans le bruit, dans l'agitation. Puis inversement, je dirais que dans la paix, nous trouvons Dieu, mais aussi en Dieu, nous trouvons la paix. C'est encore plus important, hein. Je crois que c'est... Alors, ce qui est très encourageant pour nous, c'est qu'il y a de beaux textes de l'Écriture qui nous présentent justement la paix comme un don de la grâce. Hein. Nous connaissons les paroles de l'Évangile de Jean qu'on répète à chaque Eucharistie, enfin au moins une petite partie après notre Père. Hein. Jésus a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». Non pas comme le monde la donne, mais moi je vous la donne. Donc il y a vraiment une promesse du Seigneur et c'est un petit peu ça qui nous donne cette audace de rechercher la paix, c'est justement d'avoir cette conviction que c'est pas simplement quelque chose que nous devons fabriquer par nous-mêmes, ce qui serait sans doute au-delà de nos possibilités, mais c'est davantage un don, une promesse qui nous est faite. Je pense que de temps en temps, on a peut-être le droit de faire la chose suivante, de prendre son évangile, l'évangile de Jean, là au chapitre 15, donc où Jésus nous dit... ces choses, le verset que je viens de citer, je vous donne ma paix,
puis de je dire vous laisse Seigneur, ma paix, c'est ma paix que je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas ni ne s'effraie. Vous dites que cette promesse divine, en fait, on la retrouve aussi au moment du livre de l'Apocalypse. Alors peut-être que pour ceux qui ne connaissent pas bien, vous pouvez réexpliquer ce que c'est. Et à ce moment-là, étonnamment, il est dit la même chose. Enfin, pas tout à fait. En tout cas, il y a une même invitation à la paix.
Oui, enfin je pense surtout à l'évangile de Jean, parce que dans l'Apocalypse, là j'ai pas vraiment en tête exactement les passages qui peuvent en parler. Enfin on trouve ce thème, le thème de la paix, c'est un thème qui est très fréquent dans l'Écriture, hein, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Hein. Mais sans doute que le texte le plus explicite, c'est celui qu'on vient de citer. Donc moi je pense que de temps en temps, on a le droit de dire « Seigneur, rappelle-toi ta promesse. Hein, je suis petit, pauvre, fragile, je me sens menacé, mais tu m'as fait cette promesse de la paix, alors je te demande avec confiance de réaliser ta promesse. » Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'être totalement passif. Nous avons aussi de notre côté à nous certaines choses à mettre en place, certains efforts, justement pour accueillir cette paix de Dieu. Mais quand même, le fait de savoir que c'est une promesse, c'est un don, eh bien, je crois que ça nous encourage beaucoup à nous ouvrir à ce don, et puis à ne pas nous décourager dans les moments où ça peut sembler un petit peu inaccessible.
Alors justement, si on continue en fait avant de donner des clés, enfin de plonger plus profondément dans cette paix, toujours dans ce chapitre, donc la paix intérieure et une urgence spirituelle, vous dites aussi que forcément c'est un combat, et vous avez la phrase suivante, plus nous tendons vers la paix, plus la grâce de Dieu est en mesure d'agir dans notre vie, comme un lac tranquille reflète parfaitement le soleil, ainsi un cœur paisible et réceptif à l'action et aux motions de l'esprit. Et vous dites, et vous citez pour ça un certain Lorenzo Scupoli, donc qui est auteur d'un ouvrage au XVIe siècle sur le combat spirituel, vous dites que c'est un combat spirituel parce qu'il y en a un en fait qui ne veut pas qu'on trouve la paix. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et mettez-vous peut-être à la place des gens qui ont parfois du mal à croire en Dieu, voire même à croire du mal au démon.
Oui, enfin, moi, il y a effectivement une part de combat dans la vie, ça c'est clair, il faut l'accepter. Mais peut-être que justement, l'essentiel du combat spirituel, eh bien, c'est de retrouver la paix ou de conserver notre paix, même quand la situation est difficile autour de nous. Et c'est vrai, je crois que Dieu désire justement nous communiquer cette paix. Hein, il est une source infinie de paix qu'il désire donner à notre cœur. Je crois qu'au contraire, l'adversaire, le Satan, et on ne peut pas douter de son existence, je dirais, il fait tout pour nous ravir la paix. Je pense que la stratégie du démon envers les croyants de bonne volonté, c'est souvent de les inquiéter, les décourager, de les troubler, enfin d'essayer de faire tout pour qu'ils ne soient pas en paix, en invoquant des tas de raisons, de raisonnements, de prétextes, parfois assez subtils. Mais donc, je crois que quand on parle de combat spirituel, c'est peut-être un point qu'il ne faut pas oublier. C'est que l'enjeu essentiel du combat spirituel, eh bien, c'est de garder la paix, même si les circonstances sont difficiles, même si je suis confronté à ma fragilité, même si je suis imparfait, pas encore complètement converti, eh bien, je dois pourtant, je dirais, garder confiance et puis conserver autant que possible dans mon cœur un espace de paix qui me permet justement de rester ouvert à l'action de Dieu. Je pense que oui, ce désir de construire et d'approfondir en nous un espace de paix, c'est pas simplement une recherche humaine de tranquillité. Beaucoup plus profondément, c'est un moyen, je dirais, qui nous rend ouverts à l'action de Dieu. Vous citiez tout à l'heure l'image que j'utilise dans mon livre, hein, de même qu'un lac paisible reflète parfaitement le soleil. Eh bien, si notre cœur aussi sait rester paisible, confiant, abandonné, eh bien, il sera plus ouvert pour entendre la parole de Dieu, pour se laisser conduire par l'Esprit Saint, pour permettre à Dieu de travailler dans notre vie.
Est-ce que vous pouvez décrire ce qu'est cette paix en fait qu'on trouve, et puis on verra un petit peu plus tard, peut-être dans la seconde partie de l'émission. Évidemment, il y a l'importance décisive de la prière, mais déjà, pour nous faire entrevoir, à quoi ressemble cette paix en fait? C'est quoi? C'est une égalité d'humeur? C'est
je crois que c'est plus
c'est une
profond,
tranquillité de cœur? C'est...
Oui. Alors, je crois qu'il y a un aspect psychologique, évidemment, mais je pense que ce n'est pas l'aspect le plus profond, parce qu'au plan psychologique, on peut difficilement être dans une paix totale. Il y a des moments de tempête, des moments de trouble qui sont un petit peu inévitables. Mais je dirais que cette paix, c'est plutôt comme une certitude qui nous habite. Oui, être habité profondément par cette certitude que Dieu est fidèle, que je peux compter sur lui, que jamais il m'abandonnera, que Dieu peut tirer un bien de tout. Oui, c'est comme porter dans son cœur une certitude de foi, je dirais. C'est peut-être ça l'aspect le plus important. La racine profonde de cette paix, c'est la foi. La foi qui nous donne confiance dans l'amour et la fidélité de Dieu et qui fait que justement, même si parfois en plan psychologique, on peut être assez secoué par telle ou telle chose, ce qui est inévitable, il y a quand même comme un fond en nous, au plan du spirituel, enfin un petit peu le fond de l'âme, hein, qui reste dans cette disposition de profonde confiance et de foi.
Ce qui veut dire que donc le préalable, en fait, c'est pour trouver cette paix intérieure, c'est d'avoir donc le don de la foi et donc d'avoir la certitude de l'existence de Dieu, de son amour pour nous et de une confiance totale en lui, en fait. C'est...
Oui, mais je dirais qu'il n'est pas, c'est quelque chose qui n'est pas immédiatement donné en plénitude. C'est quelque chose dans lequel on grandit peu à peu. Je crois que la foi, justement, elle est appelée à s'approfondir. Et au fur et à mesure qu'elle s'approfondit, eh bien effectivement, elle devient davantage pour nous source de liberté et de paix.
Ça veut dire qu'on on peut se mettre en chemin, même si on en a juste entre guillemets, un tout petit aperçu ou qu'on a une foi extrêmement
bien sûr,
fragile.
Je crois que même si notre foi est toute petite, il faut commencer par la pratiquer. Et c'est en la pratiquant qu'elle grandira peu à peu. Alors, avec l'aide de Dieu. Ce qui est un peu mystérieux dans la foi, c'est qu'elle est un don de Dieu, est une grâce, bien sûr, qu'il faut demander, qu'il faut désirer. Mais elle est aussi un travail de l'homme. Je crois que la foi est aussi une décision. Oui, donc c'est une grâce qui nous est faite, mais en même temps, je crois que la foi, c'est aussi un choix que nous posons. Dans une situation difficile, délicate, je pourrais douter, je pourrais me décourager, je pourrais m'inquiéter, mais non, je choisis, je me décide à faire confiance. Donc je dirais ce qui dépend de nous, c'est cette décision de la confiance, qu'il faut sans cesse reprendre, même si elle n'est pas toujours facile. Et je pense que quand nous sommes dans cette décision de confiance, dans cet acte de foi, eh bien la grâce, peu à peu, nous encourage, nous soutient, et puis nous confirme que c'est le bon chemin, que Dieu est fidèle. Et que si effectivement on met sa foi en lui, eh bien on expérimente la présence et l'action de Dieu. Alors pas toujours de manière très sensible, mais quand même, dans le long terme de notre vie, on fait cette expérience que si je mets en Dieu ma confiance, si je me décide pour la foi, eh bien, de fait, non seulement une paix s'approfondit dans mon cœur, mais j'expérimente aussi la fidélité de Dieu dans des aspects de ma vie. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une baguette magique qui fait que les problèmes disparaissent. Hein. Les combats, les épreuves sont toujours là, mais quand même, on perçoit la main de Dieu dans notre vie, puis on perçoit aussi comment Dieu est capable de tirer un bien de situations difficiles, parfois. Donc, je crois que peu à peu, la foi grandit aussi à travers une expérience au quotidien de la fidélité de Dieu.
Alors il y a un passage dans votre livre qui s'appelle « La pratique de la paix intérieure ». Vous dites qu'il faut conserver la paix intérieure. Imaginons donc qu'on s'est mis en route, que les auditeurs entrevoient ce dont vous parlez. Vous dites que c'est comme une forme, je sais pas, d'ascèse quotidien. Ça veut dire quoi en fait conserver la paix intérieure? Ça veut dire se lever le matin, essayer de faire cette paix dans son cœur, entre autres grâce à la prière, on verra ça plus tard.
Oui.
Et puis d'essayer de rester constamment, quels que soient les événements, dans cet état
égal. On peut pas être dans une stabilité totale, évidemment, parce qu'on est des êtres humains, on est sensible. Mais je dirais qu'il faut un petit peu pratiquer tout ce qui nourrit notre foi, notre confiance en Dieu. Je crois que cette paix, c'est un peu comme un espace intérieur, un jardin intérieur, mais évidemment, il faut le nourrir, hein, il faut le cultiver d'une certaine manière. Alors qu'est-ce qui nous aide à grandir dans la paix? Je crois qu'il y a la prière d'abord, hein, parce que, comme je disais tout à l'heure, Dieu est le Dieu de la paix. En Dieu, il y a une énergie, une force extraordinaire, mais il y a aussi une paix, une douceur extrêmement profonde. Et je pense que chaque fois que nous avons un vrai contact avec la présence de Dieu, par une prière sincère, une ouverture du cœur, eh bien, quelque chose de la paix de Dieu descend en nous. Alors, c'est pas toujours immédiat, parfois il faut un petit peu de temps, mais je crois qu'on a tous fait cette expérience, que parfois on porte des soucis, des choses qui nous inquiètent beaucoup, et puis on va prendre un temps de prière, ça peut être une heure d'adoration du Saint-Sacrement, ça peut être un chapelet qu'on dit calmement, et puis on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps quand même, la situation peut être identique, mais mon cœur change peu à peu. Hein, tout simplement parce qu'à travers la prière, je me suis mis en contact avec la présence de Dieu, hein, pas toujours sensible, mais un contact avec une présence qui est réelle. Eh bien, cette présence divine distille, je pourrais dire en moi, une certaine paix, parfois très abondante, des fleuves de paix, dit l'Écriture, parfois. Bon, parfois c'est des petites gouttes, hein, mais je pense que dès qu'il y a un moment de prière sincère, confiante, et eh bien un vrai contact avec Dieu dans les sacrements, dans la prière, dans l'adoration, et eh bien il y a toujours des fruits de paix qui sont donnés, il me semble, hein. Voilà. Donc c'est un des premiers moyens.
Vous citez le psaume 130 dans ce passage, la pratique de la paix intérieure. Je garde mon âme égale et silencieuse, dit le psaume 130. Plus le cœur est paisible et abandonné, plus il peut recevoir le mouvement, la lumière et l'aide de l'Esprit Saint. On va faire une première pause musicale et puis on vous retrouve après pour cette fois une bonne introduction et plus qu'une introduction à la prière. Et je rappelle le titre de votre ouvrage, si tu savais le don de Dieu, pardon, apprendre à recevoir aux éditions des Béatitudes.
J'étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort. Du fond de l'abîme, j'ai crié vers toi, Seigneur. Tu m'as délivré, tu m'as guéri, tu m'as sauvé. Mon âme est en paix car tu m'aimes.
Yeah. présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, cette émission Vivante Église ce matin, apprendre à accueillir Dieu, donc avec le père Jacques Philippe, qui est en duplex depuis les studios de Radio Notre-Dame à Paris, auteur d'un ouvrage récemment paru, Si tu savais le don de Dieu, apprendre à recevoir, aux éditions des Béatitudes. Et je rappelle que vous avez publié aussi par le passé un best-seller qui s'appelle Cherche la paix et poursuis-la. Alors après cette longue introduction et cette incitation à chercher la paix, puisque à vous entendre, en fait, quand on cherche la paix, on cherche Dieu et on finit par le trouver. Il y a évidemment un moyen clé pour rentrer dans cette paix, c'est la prière. La première question que j'aurais envie de vous poser, c'est qu'il ne peut rien se passer si on ne prie pas cette paix des profondeurs. En fait, on ne peut pas la découvrir sans la prière.
Disons que la grâce de Dieu nous est donnée par beaucoup de moyens, hein, pas seulement par la prière, mais je pense quand même que la prière est un moyen essentiel, hein, surtout aujourd'hui. Mais si on ne prend pas de temps en temps des moments de pause pour se mettre en présence de Dieu, pour accueillir son amour, je crois que ce sera beaucoup plus difficile pour nous de trouver une vraie paix intérieure. Il y a des moments, si vous voulez, c'est Dieu qui est la source de toute façon. Et donc il y a des moments, ce qui est beau dans la prière, c'est qu'on se tourne explicitement vers celui qui est la source, un domaine explicite, consciente, et donc je crois que ça facilite les choses. Alors Dieu peut nous rejoindre évidemment pour d'autres moyens, mais je pense que si on néglige trop la prière, ce sera difficile quand même de trouver une véritable paix intérieure.
Alors qu'est-ce que vous entendez par prière? Parce que les prières, il y a de multiples manières de prier quand on est chrétien. On peut aller, enfin pour les catholiques, aller à la messe, on peut réciter le chapelet, on peut prendre des temps d'adoration, oui, etc. Mais à lire entre les lignes, pour vous, c'est la prière silencieuse, l'oraison. Alors pourquoi cette attention particulière? On reçoit souvent des carmes à cette antenne qui nous parlent de l'oraison. Et pourquoi ce focus sur cette prière silencieuse de l'oraison?
Bien, moi je crois qu'il y a bien sûr beaucoup de formes différentes de prières qui sont toutes légitimes et bonnes, mais je pense que peut-être que ce qui est le plus essentiel dans la prière, c'est justement d'accueillir une présence. Mais c'est pas de faire beaucoup de choses, c'est pas de penser beaucoup, c'est pas de multiplier les paroles, hein, même si donc les paroles, les pensées peuvent nous aider, elles peuvent nourrir notre relation avec Dieu, bien entendu, il ne s'agit pas de les mépriser. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier que ce qu'il y a de plus essentiel et de plus fécond dans la prière, c'est tout simplement en fait d'accueillir Dieu, oui, d'accueillir une présence, d'accueillir un amour, dans une attitude de foi, de confiance. C'est s'ouvrir à une présence qui est là. Et je dirais que nous cherchons Dieu, mais Dieu nous cherche bien davantage. Et Dieu est présent, Dieu frappe à la porte de notre cœur. Et la prière, je crois que c'est ce moment où justement, eh bien, nous prenons une petite pause, nous sortons de nos activités pour nous mettre en présence de Dieu, puis accueillir cette présence. Je crois que c'est ça l'essentiel.
Et comment expliquer, enfin vous, j'ai envie de dire vous, c'est un peu votre spécialité, mais qu'il faille prendre en fait 5 minutes de silence, 10, enfin juste 5 en fait, pour que Dieu trouve une brèche dans notre vie, en fait. Ça peut paraître étonnant quand même comme manière de fonctionner pour Dieu.
Écoutez, moi je crois que c'est comme toute amitié. Je dirais qu'à partir du moment où on veut vivre une relation profonde avec une personne, il faut y consacrer du temps. Je crois que c'est vrai dans le domaine de relations humaines, de la vie conjugale par exemple. Une relation entre personnes ne peut s'approfondir que si on prend du temps pour être l'un avec l'autre. Ça me paraît absolument indispensable. Oui, si des époux n'ont jamais 5 minutes de dialogue, on voit difficilement comment la relation pourrait s'approfondir et trouver sa beauté. C'est pareil avec Dieu, je crois que... Puis il faut nous rappeler aussi que Dieu nous a appelés, pas d'abord pour faire des choses, pas d'abord pour être des serviteurs, mais d'abord pour être des amis. Donc il y a comme une amitié qu'il faut entretenir. C'est le terme qu'utilise Thérèse d'Avila quand elle parle de l'oraison. Elle dit que c'est un commerce d'amitié avec celui dont nous savons qu'il nous aime. Mais donc s'ouvrir à un amour, s'ouvrir à une présence, entrer dans un dialogue, enfin, qui parfois est silencieux, mais une espèce de communication mutuelle dans laquelle j'accueille la présence de Dieu, et puis en même temps je me confie à lui. Alors, ma personne, mon être, ma vie, je lui confie toutes choses.
Vous dites justement à un moment, et en écho donc au titre de votre ouvrage, dans la vie spirituelle, il ne s'agit pas tant de faire que de se laisser faire. Est-ce que c'est une bascule réelle? Parce qu'en même temps, il y a quelque chose de l'ordre de la décision, c'est-à-dire qu'il faut prendre du temps, Mais une fois qu'on a essayé de prendre du temps, en fait, il faut quoi, devenir un peu plus passif, il faut se décider, oui. Mais après, il faut devenir passif.
Oui. Enfin, là, vous touchez une question qui est beaucoup plus large que la question de la seule prière, qui est un des points fondamentaux que je traite dans mon livre, dans le premier chapitre. Hein, c'est que je crois que c'est extrêmement important pour nous de comprendre que l'essentiel de la vie chrétienne, donc c'est pas tant de faire ceci, de faire cela, d'avoir une liste de pratiques ou de commandements à accomplir, même si c'est nécessaire, hein, il n'y a pas de vie évangélique sans générosité, dans le don de soi. Mais en même temps, l'essentiel de la vie chrétienne, c'est accueillir un don, accueillir une grâce. Donc je pense qu'il y a dans la vie, je dirais même humaine, naturelle, si on n'a pas toujours conscience, mais c'est déjà vrai au plan naturel. La vie est d'abord quelque chose qui s'accueille. C'est pas d'abord quelque chose qui se manipule, qui se construit, qui se modifie, mais c'est d'abord une réalité qui s'accueille. Et c'est encore plus vrai donc dans le domaine de la vie spirituelle. Je pense que toute la richesse, la fécondité de la vie chrétienne, de la vie spirituelle, elle dérive principalement, non pas simplement d'une action humaine, mais elle dérive, je dirais, de l'accueil d'une grâce, de l'accueil du mystère de Dieu et de la vie de Dieu. Et nous sommes appelés, évidemment, dans la vie chrétienne à donner beaucoup, nous sommes appelés à être généreux, à servir, et c'est une très très belle dimension, mais je pense que nous ne pouvons donner beaucoup aux autres que si nous apprenons aussi à recevoir. Et c'est parfois le plus difficile. C'est pas toujours très compliqué de réfléchir beaucoup, d'agir beaucoup, de faire ceci, de faire cela, c'est un petit peu la pente naturelle, surtout dans un monde aujourd'hui très très actif, un peu activiste même comme le nôtre. Par contre, cette dimension de accueillir, recevoir, dépendre d'un autre, ça nous est moins naturel, parce que peut-être que justement cette réceptivité, cet accueil, je dirais, du mystère de Dieu et de sa grâce, ça demande une grande confiance, puis ça demande une humilité aussi, une ouverture. Ça veut dire aussi que ce qui devient le centre, c'est plus moi-même, mon initiative, mon intelligence, mon action, mais ce qui devient le centre, c'est Dieu. Mais donc, entrer dans une réceptivité, ça veut dire entrer dans une humilité, entrer dans une dépendance, entrer dans un accueil. Et c'est pas toujours si simple. Et puis aussi, c'est entrer dans une totale confiance, parce que je pense qu'une des clés de la réceptivité spirituelle, c'est une certaine qualité de confiance. Oui, plus j'ai confiance en Dieu, plus mon cœur est ouvert et plus je peux recevoir. Au contraire, si j'ai pas confiance, eh bien, je doute, je soupçonne, je crains, et donc quelque chose se ferme en moi. Et c'est vrai que faire confiance, faire une totale confiance, c'est pas toujours naturel.
Alors vous citez justement.
Et puis parfois aussi, je dirais que notre problème, c'est que nous voulons tout gérer par nous-mêmes. Au lieu de nous laisser faire, de nous laisser conduire, on veut être le maître de notre vie, de nos situations. Et donc être réceptif, c'est au contraire apprendre à ne pas être le maître, à ne pas être le centre, c'est apprendre à recevoir, apprendre à accueillir. Et donc ça suppose effectivement une certaine révolution intérieure, comme vous le dites.
Oui, est-ce que c'est une bascule qui se fait, je sais pas, progressivement? Est-ce qu'il y a des étapes décisives en fait dans cette bascule, dans ce lâcher prise?
Oui, enfin c'est progressif évidemment, mais il peut y avoir parfois des étapes importantes où on comprend ça. Oui, par exemple, certaines personnes vivent un temps de crise. Oui, pendant des années, elles ont voulu tout contrôler, tout gérer par elles-mêmes, tout tenir en main. Puis à un moment, il y a un crash, on est épuisé, on n'en peut plus, puis on s'aperçoit qu'on doit changer d'attitude. Que c'est absurde de vouloir dominer, contrôler la vie, qu'il faut entrer justement dans cette attitude de petitesse, de pauvreté, de réceptivité. Donc il peut y avoir parfois une bascule comme ça à l'occasion de certaines crises, certains événements de la vie. Alors parfois c'est aussi tout simplement, je dirais, l'approfondissement de notre expérience spirituelle. Au fur et à mesure que la prière s'approfondit, que la connaissance de Dieu devient plus vivante, que aussi nous voyons davantage nos limites, et bien peu à peu, il y a des changements d'attitude qui s'opèrent dans notre vie, qui font qu'on arrive justement à quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de l'accueil, de la réceptivité, que de vouloir tout maîtriser et contrôler et dominer.
Alors quand vous parlez de la prière, comme ça vous dites que souvent on se dit, enfin quand on a commencé à essayer de prier ou qu'on a pris l'habitude de prier, qu'on a tendance à juger sa prière, à se dire que parfois on prie bien, parfois on prie mal, etc. Vous dites que c'est pas du tout le plus important de savoir si on a bien ou mal prié, mais de savoir quelles sont nos intentions les plus profondes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Ben oui, ce qui fait donc la valeur profonde de la prière, c'est pas telle méthode, telle technique, telle formule, hein, même si c'est bon d'avoir des habitudes, des moyens concrets qui nous aident, hein, une pédagogie de la prière est absolument nécessaire. Mais ce qui est important, c'est de nous rappeler que ce qui rend la prière féconde, ce qui fait qu'elle devient vraiment un contact avec le Seigneur, et puis qu'elle peut aussi nous transformer peu à peu, eh bien, ce sont les dispositions de cœur que nous pratiquons dans la prière. C'est ça qui est essentiel. Et donc, un thème que je développe beaucoup, mais dans un autre livre, qui s'appelle « Apprendre à prier pour apprendre à aimer », donc un des thèmes essentiels que je développe dans ce livre, c'est que qu'est-ce qui fait qu'une prière est bonne ? Qu'est-ce qui fait qu'une prière nous met vraiment en contact avec le mystère de Dieu ? Qu'est-ce qui fait qu'une prière peut à peu effectivement transformer profondément et guérir notre cœur ? Eh bien, c'est quand la prière est un acte de foi, un acte d'espérance et puis un acte d'amour. Et donc, c'est ça qui compte, ce sont les dispositions du cœur. Et on retrouve, je crois, en fait, là, ce qu'on appelle classiquement les vertus théologales. Qu'est-ce que c'est qu'une véritable prière qui nous ouvre vraiment au mystère de Dieu ? C'est la prière qui est un acte de foi, de confiance totale, d'ouverture à Dieu. La prière qui est un acte d'espérance, où j'apprends de plus en plus à compter, non pas sur mes propres forces, mes propres capacités, mais j'apprends de plus en plus à compter sur le Seigneur et à tout attendre, tout espérer de lui. Donc une prière qui est un acte d'espérance, dans lequel aussi j'accueille ma petitesse, ma pauvreté, mais je m'appuie sur Dieu. Et puis aussi, troisièmement, donc une prière qui est un acte d'amour. Autrement dit, un véritable désir d'aimer Dieu, de se donner à lui sincèrement, de lui appartenir. Et aussi une prière qui consiste à accueillir l'amour de Dieu. Alors, croire que je suis aimé. Oui, et donc quand la prière repose un peu sur ses fondements de la foi, de l'espérance, de l'amour, c'est là qu'elle s'approfondit peu à peu et c'est là qu'elle devient une source de vie pour nous et de liberté.
Vous dites aussi qu'il faut bien sûr que cette prière soit animée d'un grand désir et qu'elle soit persévérante.
Oui.
Alors, expliquez-nous l'importance de cette persévérance.
Bien, je crois qu'il n'y a pas d'amour sans fidélité. Et puis je crois aussi que dans toute relation, vous voyez, si on veut que la relation devienne profonde et trouve toute sa beauté, eh bien il faut une fidélité l'un à l'autre, du temps, des semaines, des années où on se rencontre, où on commune l'un à l'autre. C'est là et je crois que c'est pareil avec Dieu. Vous voyez, il y a pas de véritable amour de Dieu sans fidélité. Et puis aussi, je pense que le facteur temps a son importance. À la fois le temps que nous donnons à Dieu, parce que le temps c'est la vie, et aimer quelqu'un c'est lui consacrer du temps, sinon eh bien, on est un peu dans l'illusion. Puis je pense aussi que les fruits de la prière sont très progressifs. Il peut y avoir parfois de fortes expériences de conversion ou autres qui peuvent nous changer en profondeur, mais je dirais que habituellement, les fruits de la prière, c'est un peu comme les fruits d'un arbre ou les réalités de la nature que Jésus évoque souvent dans l'Évangile. C'est que ça prend du temps. C'est une lente maturation et c'est une progressive transformation et donc ça suppose évidemment une persévérance. D'autant plus que je crois que le mystère de Dieu, d'une part, est extrêmement riche. On n'a jamais fini de découvrir toute la richesse du mystère du Christ, de l'amour de Dieu. Donc, on peut largement y consacrer des vies et des vies, je dirais, à scruter Dieu, à le chercher, à le découvrir. Et puis aussi, je dirais que nous-mêmes, nous sommes aussi un certain mystère. Et je pense que la prière, vous voyez, non seulement nous fait rencontrer Dieu, mais nous fait aussi descendre en nous-mêmes. Et je pense que là aussi, il y a beaucoup à découvrir, à comprendre peu à peu, oui, se connaître en vérité, découvrir à la fois mes limites, ma fragilité, mes blessures, mais en même temps découvrir plus profondément cette présence qui m'habite et l'enfant du Dieu que je suis. Oui, il y a toute une certaine richesse, je dirais, de l'expérience qui suppose du temps. Oui, c'est pas l'affaire de 5 minutes.
Alors, on va faire une deuxième pause musicale. Je rappelle le titre de votre ouvrage et puis après, on va finir par quelques clés que vous dites en introduction. Vous en donnez 8, même si vous avez commencé à les exposer, quelques clés pour rentrer dans cet accueil. Je rappelle le titre donc de ce livre, « Si tu savais le don de Dieu, apprendre à recevoir » aux éditions des Béatitudes du Père Jacques-Philippe.
Oh,
Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église ce matin, Apprendre à accueillir Dieu, donc avec le père Jacques Philippe, auteur d'un ouvrage intitulé Si tu savais le don de Dieu, Apprendre à recevoir aux éditions des Béatitudes. Le père Jacques Philippe, dans votre premier chapitre, intitulé, il faut que je le retrouve, La réceptivité spirituelle, vous donnez donc 8 clés pour apprendre à entrer dans cet accueil. Alors vous en avez cité quelques-unes,
oui.
Mais je voudrais vous relancer sur certaines. La première, vous parlez quasiment au tout début de la confiance. Oui. Au contraire de l'incrédulité, le doute, le soupçon, la méfiance sont des attitudes de fermeture. La première chose que Dieu nous demande, ce n'est pas d'être parfait, c'est de lui faire confiance. Est-ce que la confiance, ça se décide ? Je sais pas, une confiance volontaire ou volontariste, c'est une confiance ?
Je crois que la confiance est un acte, hein, autrement dit, c'est une certaine décision. Hein. Mais en même temps, je dirais que c'est pas simplement un pur volontarisme, parce que c'est une décision qui est quelque part la réponse à une invitation de Dieu. Oui, l'Évangile, l'Écriture nous invite à la confiance. On voit bien à longueur de Bible, Dieu nous invite à la confiance. Les psaumes nous disent « Le Seigneur est mon berger ». Le Seigneur nous dit « Je suis pour toi un père et tu es mon enfant bon. ». Donc il y a clairement de la part de Dieu une invitation à la confiance qui nous est adressée. Jésus le dit sans cesse « Ne craignez pas ». Donc je pense que ces actes de confiance, c'est à la fois une décision humaine que nous prenons, parce que nous sommes libres et nous devons user notre liberté, hein, évidemment, dans la vie spirituelle. Mais ce n'est pas un pur volontarisme, un peu abstrait, un peu ou bien inefficace, parce que c'est la réponse à quelque chose que Dieu attend de nous. Donc, je dirais, faire confiance, c'est simplement répondre à Dieu. Dieu se présente à nous comme Père. Et si Dieu se présente à nous comme Père, comme Dieu fidèle, comme Dieu miséricordieux, je dirais que l'attitude la plus logique qui soit, c'est de lui faire confiance. Donc, vous voyez, à la fois, c'est extrêmement simple. Alors, en même temps, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile parce que nous sommes blessés, parce que nous avons peur, parce que nous sommes marqués parfois par des expériences négatives de relations avec notre père et tout ça. Donc, je dirais, l'acte de confiance n'est pas toujours facile. Mais je crois que c'est toujours le bon choix. Alors, évidemment, une confiance qui n'est pas, je dirais, une confiance un petit peu infantile, qui fait qu'on prend Dieu pour une baguette magique et que je ne réussis pas mes examens en comptant sur Dieu pour les passer à ma place. Bon, évidemment, notre confiance doit. Nous devons faire ce qui dépend de nous aussi, autant que possible. Mais c'est quand même, je dirais, la première chose que Dieu nous demande, hein, c'est de lui faire confiance.
Alors, la première clé.
Donc, c'est une décision, mais comme réponse à un appel, oui.
La première clé que vous citez, c'est donc la persévérance dans la prière. Là, vous parlez de la confiance. Et puis après, vous citez tout de suite après l'humilité.
Oui.
Comme une manière de mieux accueillir, en fait, le don de Dieu. C'est pareil, l'humilité, ça se décide d'être humble.
Je crois qu'il y a à la fois des actes d'humilité à poser. Et puis, je crois que surtout, l'humilité, c'est le fruit d'une expérience. Alors c'est vrai que donc la grande idée de mon premier chapitre là, c'est d'essayer de montrer quelques clés, quelques attitudes fondamentales. Je dis que ce qui est essentiel dans la vie spirituelle, c'est pas simplement ce que je fais, mais ce qui est le plus important, c'est de nous ouvrir à l'action de Dieu, hein, d'être réceptif au travail de la grâce et de l'esprit. Donc effectivement, comme vous le dites, j'essaie de d'évoquer un certain nombre de clés, il y en a 8, hein, qui sont des attitudes concrètes de la vie, hein, qui me paraissent très très importantes, justement pour ouvrir notre vie à la présence et à l'action de Dieu. Alors la prière, la confiance, et puis l'humilité, effectivement. Parce que je crois que l'humilité, c'est... Enfin, en tant qu'acte de notre part, c'est reconnaître, oui, que j'ai besoin de Dieu, reconnaître que je suis un être fragile et limité, que j'ai besoin d'être sauvé, reconnaître que je dépends de Dieu, de son amour et de sa miséricorde. Et puis aussi reconnaître que tout ce que j'ai reçu, je ne peux pas me l'attribuer, je ne peux pas me croire meilleur que les autres parce que j'ai telle ou telle qualité, mais que tout ce que je suis, tout ce que je suis de bon, tout ce que je fais de bon, et bien tout cela est un don de la grâce de Dieu. Donc, mais je pense que l'humilité la plus profonde, en fait, c'est... Alors, elle est une décision, donc réagir contre notre orgueil, nos prétentions de tout gouverner, notre illusion de nous croire le meilleur et de nous croire infaillibles. Donc, il y a quand même une mise à distance, je dirais, de notre vanité, de notre orgueil, qui fait partie du choix de l'humilité, de la décision d'humilité. Mais je pense que la vraie humilité, elle vient surtout d'une expérience. D'abord, l'expérience de Dieu, dans la prière, de sa grandeur et puis de son humilité. Dieu seul est véritablement humble, parce que Dieu s'abaisse jusqu'à nous. Et puis aussi, je crois que c'est l'expérience de la vie, nos limites, Nous passons parfois des moments d'épreuve qui font tomber certaines de nos illusions. Mmh. Nous constatons nos limites, nos fragilités. Et je pense que la vie est une école d'humilité, parfois un peu sévère d'ailleurs, mais nécessaire. Hein, parce que plus nous sommes petits, humbles, plus nous reconnaissons que nous dépendons complètement de la miséricorde de Dieu, bien plus nous pourrons recevoir. Voyez. Mmh. Au contraire, quand on se croit le meilleur, quand on veut être absolument autosuffisant et puis n'avoir besoin de personne, bien finalement on se ferme sur soi. Hein. Je crois que l'humilité, c'est un peu comme la confiance, de manière très différente, mais de manière analogue. L'humilité nous ouvre à la vie, elle nous ouvre aux autres, elle nous ouvre au réel, alors que l'orgueil nous ferme sur nous-mêmes. Donc l'humilité est une attitude de réceptivité.
Alors vous citez aussi donc d'autres clés, pardon j'avance hein, parce que je sais que le temps est compté, donc vous parlez aussi de l'obéissance, la pratique de la paix intérieure, ça on l'a cité, vivre l'instant présent, le détachement et la gratitude. Alors peut-être pour finir deux autres, l'obéissance, qu'est-ce que ça veut dire l'obéissance en fait? Ça veut dire quoi de choisir de mettre sa confiance en Dieu et donc d'obéir et puis, en fait à ses préceptes ou à ses commandements.
Oui, je crois. Alors bien sûr, l'obéissance, c'est une obéissance qui dérive de la confiance. Hein. C'est pas une obéissance d'esclave ou motivée par la peur. Donc c'est une obéissance qui vient de la confiance. Mais je dirais c'est le désir de nous laisser conduire par le Seigneur. Hein, le désir de faire sa volonté, de le suivre, accepter de ne pas être le maître de notre propre vie, mais de confier à Dieu, je dirais. Dans une attitude de confiance et d'abandon, de remettre à Dieu la maîtrise de notre vie. Alors ça peut prendre beaucoup de formes pratiques après ça, mais c'est vraiment nous soumettre à Dieu par amour, hein, nous ouvrir à la vérité de Dieu. Hein, que celui qui a la vérité profonde de ma vie, qui la connaît, hein, c'est le Seigneur, et bien plus que moi-même, donc c'est aussi une forme d'ouverture. Hein. Et puis je crois que l'obéissance, c'est aussi... accueillir le réel tel qu'il est, hein, consentir. Et parfois, la vie nous conduit sur des chemins qui ne sont pas forcément ceux que nous aurions choisis. Hein. Parfois, on aurait préféré vivre autre chose que effectivement les choses que nous traversons, hein, telle épreuve, telle maladie. Donc je crois qu'il y a une forme d'obéissance très importante aussi et très féconde, même si elle n'est pas toujours comprise et pas toujours naturelle, hein, c'est d'accueillir le réel tel qu'il est. Oui, parce que Dieu travaille dans le réel.
En même temps, c'est normal aussi de se révolter contre... Enfin, comment dire, de vouloir lutter contre la maladie, contre les injustices.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut lutter contre le mal, hein, contre l'injustice, ce qui détruit la vie humaine, ce qui nous sépare les uns des autres, qui nous sépare de Dieu. Donc il faut évidemment, il ne s'agit pas d'être passif, hein, il faut lutter contre le mal, mais en même temps, il faut accueillir la vie telle qu'elle est. Vous voyez, le réel, oui, Dieu agit dans le réel. Hein, non pas dans ce que nous rêvons, non pas dans l'imaginaire, hein, mais l'Esprit-Saint agit dans le réel tel qu'il est. Hein, et donc, pour s'ouvrir à l'action de l'Esprit-Saint, il faut aussi accueillir le réel. Alors si j'ai une maladie, par exemple, bien sûr, il faut que je me soigne. Mais en même temps, il faut que j'accepte la maladie. Hein, parce que c'est justement en acceptant la maladie qu'on va pouvoir la gérer, trouver peu à peu des remèdes. Et donc il y a un consentement au réel, oui, une confiance dans la vie, hein, qui me paraît importante.
Vous citez...
Très souvent, on se révolte un peu, on s'agite, on s'inquiète devant certains événements, alors qu'en fait, quand on les accueille, on s'aperçoit parfois que ces événements sont bons et positifs pour nous. Oui, tout peut devenir une grâce. Je crois que... Bon, bien sûr, ça reste une réalité un petit peu mystérieuse, hein, on peut pas tout expliquer non plus. Mais...
Vous citez par exemple Ethil Soum, vous dites un passage donc de cette... d'un livre de Paul Lebeau, Ethil Soum, un itinéraire spirituel. Vous dites, Ethil Soum dit la chose suivante: la vie est belle et pleine de sens dans son absurdité. C'est-à-dire qu'il faut intégrer quoi le mystère du mal à l'intérieur de la vie. Il faut apprendre à accepter qu'il y a une forme d'absurdité à l'intérieur de la vie et s'y soumettre ou y consentir. C'est difficile à comprendre.
Je dirais accueillir la vie telle qu'elle est, telle qu'elle se donne à nous jour après jour. Alors ça ne veut pas dire qu'on accepte le mal. Je crois que le mal, il faut autant que possible essayer de le remédier, essayer de trouver des solutions. Mais en même temps, on ne peut pas tout résoudre. Et puis il faut accepter que le monde dans lequel nous sommes soit un monde imparfait.
Enfin, prenons ce moment, il fait froid. Par exemple, il y a des personnes qui dorment à la rue. Peut-être que certaines écoutent Radio Présence, c'est normal qu'elles aient qu'une envie, c'est de sortir de la rue pour le coup.
Ah ben absolument, et puis je dirais que c'est un devoir pour nous de les aider. Mmh. Donc, je ne prêche pas du tout pour une paresse spirituelle. Jésus le dit, si bon, ce que tu as fait au plus petit d'entre les mains, ça... et parfois nous péchons justement de paresse, de manque de sensibilité aux souffrances des autres. Mais je dirais qu'il nous faut à la fois donc, être sensible à la souffrance des autres, faire ce que nous voulons pour les aider, mais... en accueillant la vie telle qu'elle est, en acceptant que la vie soit un combat, qu'il y ait parfois des temps de souffrance, en acceptant que parfois nous soyons traités d'une manière qui n'est pas forcément celle qu'on aurait choisie. Vous voyez, croire que tout événement peut devenir une grâce quand il est vécu dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Et que Dieu peut tirer un bien du mal. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être passif devant le mal, il faut toujours essayer d'y remédier autant qu'on peut, mais toujours dans une espérance, jamais dans une inquiétude, un découragement, une peur ou un refus de la réalité. Il y a parfois comme ça des personnes qui fuient dans l'imaginaire, qui fuient dans je ne sais pas quoi, parce qu'on n'accepte pas le réel, ou dans le déni du monde, parce qu'on n'accepte pas le réel tel qu'il est. Je crois que c'est un appel à la confiance, que dans le monde tel qu'il est, Dieu est présent. Et si je désire aimer, si je désire vraiment faire le bien autour de moi, eh bien, j'aurai toujours les moyens d'aimer, hein, même dans des situations difficiles. Alors, c'est sûr que c'est un peu délicat comme discours, parce qu'il faut trouver un équilibre entre la responsabilité qui nous fait prendre en main, transformer, améliorer les situations, mais en même temps, d'autre part, un accueil, un consentement, hein, qui fait que, eh bien, nous prenons les choses telles qu'elles sont. Au lieu de rêver d'un monde différent, eh bien nous prenons la vie telle qu'elle est, et cette vie, nous essayons de la vivre en présence de Dieu pour qu'elle soit pour nous un lieu de croissance, hein, dans l'amour, dans la confiance, dans la relation avec Dieu, puis dans l'amour envers les autres. Enfin, je crois que c'est une confiance, oui, que Dieu est là dans notre réel. Et en accueillant le réel qui est le mien, mes limites, celles des autres, les limites des situations qui sont les miennes, mais en les accueillant, puis en essayant simplement de voir comment les affronter dans l'espérance et dans l'amour, eh bien, faisant ceci, je m'aperçois que, eh bien d'abord, il y a une certaine paix qui vient, parce que quand on accepte le monde tel qu'il est, quand on accepte la réalité telle qu'elle est, eh bien, on est en paix. Et puis aussi, c'est comme ça qu'on peut l'accueillir, l'affronter, puis l'améliorer. Moi, je crois que pour accepter le réel, il faut l'accepter. Pour améliorer le réel, il faut commencer par l'accepter.
Eh ben, merci beaucoup, Père Jacques-Philippe. En tout cas, en passant une heure avec vous, vous voyez déjà, moi, je suis déjà plus tranquille. Et Dieu sait s'il y a du travail. Donc, félicitations à vous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Si tu savais le don de Dieu, apprendre à recevoir » aux éditions des Béatitudes. Merci beaucoup. Je rappelle que vous étiez en duplex depuis les studios de Radio Notre-Dame. Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h. Vous la retrouvez en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.